Tour de passe-passe, une création sonore de Ruby Pignata, une production d'une certaine gaieté, 2021-2022, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Épisode 2.
La manière dont je me positionne par rapport au vaccin, je pense que tout ce qui se trame dans le corps médical, que ce soit la gestion des hôpitaux, la création de médicaments, il y a une très forte présence des entreprises privées et du coup un objectif capitaliste pour la création de médicaments et de vaccins. Cependant, je pense que les personnes qui composent ces entreprises, il y a aussi des personnes qui ont choisi ces métiers pour des raisons de santé publique. Il y a des protocoles établis dans la création de vaccins qui ont été suivis. Je crois en la science et je pense que la plupart des avancées qui ont été faites sur ce vaccin-là respectent les normes dans lesquelles les vaccins doivent être faits. Ce qu'il manque cruellement par rapport à ce vaccin, mais pas seulement par rapport à ce vaccin, par rapport à cette maladie, c'est qu'on n'a pas de recul. On est dans une société qui a l'habitude de tout gérer dans l'immédiateté. Or, une maladie, ce n'est pas comme une information qui se passe sur les réseaux sociaux qui doit être traitée immédiatement. Il y a effectivement une temporalité de réflexion, d'analyse, d'études qui n'échappe pas au fait qu'on a besoin de beaucoup de temps. Cette temporalité est longue et on ne l'a pas. Cette création de vaccins est pour moi une réponse qui était indispensable et dont on ne pouvait pas se passer en tant que société pour la gestion de cette crise-là.
Dire aux gens, quand il y aura 70% de la population qui sera vaccinée, on sera tranquille, on pourra enfin dire que c'est éradiqué, etc. Et alors à chaque fois, c'est nous dire des chiffres qui sont plus élevés, plus élevés, plus élevés. Et je me demande si à 90% ou même 95% de pourcentage de vaccination, on nous laissera tranquille en fait quelque part. Parce que j'ai l'impression que ça n'en finira jamais, quel que soit le pourcentage de vaccination.
C'est une maladie qui a l'air d'être assez compliquée parce qu'elle a plusieurs visages. D'autres maladies ont toujours un peu les mêmes symptômes et les mêmes conséquences. Ici, ça a l'air d'être beaucoup plus complexe que ça. Je pense que c'est invisible aussi, enfin du moins ça a l'air invisible et ça crée de la compréhension par rapport à la situation telle qu'elle se passe.
Je suis vraiment d'accord que les personnes qui sont les plus à risque, par exemple les personnes âgées, etc., c'est vraiment important de le faire. Maintenant, je ne suis pas vaccinée contre la grippe. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai fait un vaccin, c'était il y a tellement longtemps. Voilà, j'estime que quand on est jeune et qu'on a une réponse immunitaire, qu'on est en bonne santé, ça n'a pas lieu d'être de se faire autant de doses. Surtout que je pense avoir une dose pour avoir une réponse immunitaire, ok. Mais là, on est déjà à la troisième dose.
J'ai pu me faire vacciner très très tôt. Je ne suis pas contre le vaccin. Je fais vraiment la distinction entre les deux. Et donc là, je suis ravie. Je peux déjà avoir la troisième dose demain si je veux. Mais j'hésite. Franchement, ça a été difficile comme décision, mais je pense qu'elle aurait été beaucoup plus difficile si j'avais dû la prendre quand on avait annoncé l'implication du CST. Moi, au moment où j'ai pris ma décision, on n'en parlait pas du tout. J'ai pris la décision de le faire parce que j'avais peur pour mes parents. À ce moment-là, on ne savait pas vraiment trop comment le vaccin allait protéger allait marcher contre la transmission. Maintenant, on sait que ça ne marche pas tellement des masques contre la transmission. Moi, j'avais peur de le refiler à mes parents. J'avais peur aussi de moi le choper. J'ai un peu d'asthme. Ça n'a pas été une décision vraiment facile. Si effectivement, tout le monde joue le jeu, peut-être que c'est la solution et qu'on va vite en finir de ce truc. Bon. Finalement, ce n'est pas si simple. Et j'aurais pas voulu prendre la décision maintenant, et finalement, je dois quand même la prendre pour la troisième dose. C'est pas comme si je devais me dire est-ce que je me fais vacciner ou pas. Maintenant, je me dis est-ce qu'au niveau politique, on se fout pas un peu de notre gueule, et donc est-ce que moi je rentre dans ce jeu, quoi.
« je fais une grande distinction entre le pass vaccinal et le vaccin, parce que le vaccin, c'est une réponse de santé publique par rapport au fait que nous sommes une société. Nous sommes une société dans laquelle nous tous, en tant qu'individus, nous sommes composants d'un élément organique qui est global. Or, on peut confondre le fait qu'on soit des individus qui sont doués de droits et de libertés dans une société de droits, et le fait qu'on ait aussi des êtres vivants dans une société éminemment organique avec laquelle on interagit. Le pass sanitaire, de manière générale, est un petit peu est entre les deux chemins. C'est-à-dire que c'est une réponse à la fois au fait qu'on est dans une société où nous sommes tous en interaction et nous sommes un élément vivant, global. Cette réponse à un problème, pour moi, qui est effectivement le fait qu'on est, en tant que société internationale et globalisée, on est un seul organisme vivant énorme, et le fait que nous sommes des individus où on a été éduqués et baignés à la liberté individuelle, on glorifie un petit peu la liberté, enfin le concept, le mot de liberté à outrance, et qu'on finit par oublier ce que ça veut dire, et on finit surtout par oublier que la liberté individuelle ne peut pas impacter et faire mal à autrui. En tant qu'individu doué de droit, on est quand même des éléments microscopiques dans cette société globale. Et qu'en fait, peu importe qu'on ait une opinion différente, peu importe qu'on soit pour ou contre, en fait, on est quand même dans cette société. Je pense que la majorité d'entre nous sommes en contact perpétuel avec autrui, et qu'à ce titre-là, eh ben, notre liberté individuelle en tant que droit, c'est un peu compliqué, et j'ai envie de dire, est-ce qu'elle existe vraiment? Mais je pense que du coup, ériger une liberté individuelle par rapport au fait qu'on est des êtres vivants en interaction les uns avec les autres, c'est un petit peu se voiler la face pour le fait que, moi, si je suis en mauvaise santé, je peux avoir un impact sur plein de gens autour de moi.
On n'a pas du tout assez de recul. Donc c'est vrai que si d'ici quelques années, on se rend compte que ce vaccin, en fait, il a un petit peu des effets secondaires sur une certaine partie de la population. Clairement, j'ai pas forcément envie de servir de cobaye sur quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas palper, en fait, et sur lequel on n'a aucun contrôle pour les années à venir. Ça fait plusieurs mois, ça a l'air de bien se passer. Je ne dis pas que je ne ferai jamais le vaccin. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'ai encore un peu du mal à me décider. Mais scientifiquement parlant, je ne suis pas contre. Peut-être même que si j'étais vaccinée, je me dirais « Ok, je me vaccine parce que ça peut en effet sauver des vies. » Mais par contre, ce n'est pas pour ça que j'aurais envie de montrer un pass sanitaire à tout va pour aller dans une soirée, pour aller au restaurant, pour aller boire un verre dans un bar.
Ça, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un vaccin vu le peu de temps qu'il y a eu pour le fabriquer. Je ne comprends pas déjà au niveau de la fabrication, l'élaboration, comment c'est possible qu'il y en ait déjà et qu'il y en ait plusieurs et que les laboratoires n'ont pas collaboré, étudié pour fabriquer ce fameux vaccin au lieu de se faire une guerre commerciale. Quand on voit que les vaccinés peuvent quand même tomber malades, que les vaccinés ont pour certains des fameux effets secondaires, d'autres qu'on ne sait pas encore, évidemment, comme tous les nouveaux produits. C'est interpellant et ça fait peur, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce truc, finalement, dans cette piqûre.
Les vaccins génétiques, c'est une expérimentation médicale sur les êtres humains, donc ça viole l'éthique. Mais les concepts fondamentaux des droits humains.
Comme beaucoup, j'étais très content de pouvoir être vacciné. Je salue même la prouesse technique. Le vaccin, c'est un moyen prophylactique. C'est plutôt une chose assez positive. On le voit à d'autres niveaux. Par exemple, contre le HIV, il y a la PrEP. Tout le monde est très content que ça existe. Malgré le fait aussi qu'on n'a pas énormément de recul, je pense. On ne sait pas, par exemple, si on prend la PrEP pendant 10 ans, ce que ça va donner au final, étant donné qu'il y a 10 ans, ce médicament, je pense, n'était pas utilisé par un très grand groupe de monde. Mais là, ça, ce genre de dispositif ne dérange personne, tandis qu'un vaccin, ça pose plus de questions. Alors, c'est vrai que les vaccins antigéniques, ils ont ont déjà posé des problèmes avec les adjuvants, mais toujours avec un bénéfice-risque qui est bien balancé. On peut accepter qu'il y ait un souci par rapport au bénéfice. De la même façon qu'on va accepter de mettre une ceinture de sécurité, avoir un airbag dans sa voiture, tout en sachant qu'on peut aussi mourir dans un accident de voiture, ça ne protège pas à 100%.
Le vaccin en soi n'est pas une solution, en tout cas n'est pas la solution, parce que je pense que le virus, c'est un virus. Quoi. Je veux dire, la mort fait partie de la vie, il faut apprendre à vivre avec. Le CST ne sert qu'à une chose, c'est octroyer des espèces de privilèges. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ces privilèges peuvent paralyser inconsciemment la volonté de changement des gens qui préfèrent quelque part se faire vacciner pour continuer à fonctionner d'une certaine manière, plutôt que de perdre, entre guillemets, des privilèges, voire certains gagnent des privilèges puisqu'ils font partie d'un club qui a le droit de faire des choses.
Le pass vaccinal, c'est une mesure qui vise plus à protéger, je pense, la communauté. Je pense que le vaccin, on va plus le faire pour se protéger soi, bien que ça a un impact aussi sur l'entourage. Tandis que le pass vaccinal, c'est plutôt quelque chose qui permet de tamponner, de réduire le risque de propagation de la maladie. Pas de l'éradiquer, mais en tout cas de le réduire drastiquement. En permettant aux gens qui sont moins virulents de se côtoyer. La communauté des soignants imagine que la plupart des personnes vont adhérer au vaccin. Maintenant, peut-être un effort d'éducation à faire auprès des gens pour qu'on arrive à ce qu'il y ait plus d'adhésion au niveau de la population. Notamment comprendre que continuer à avoir des groupes non vaccinés, c'est aussi toujours avoir un risque haut de transmission et surtout un risque d'apparition d'un nouveau variant qui pourrait être encore plus virulent.
Ce qui m'énerve le plus dans cette situation, c'est vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Ce n'est pas obligatoire. Mais en fait, si vous ne le faites pas, vous êtes puni. Donc en fait, c'est obligatoire. Et ce n'est pas dit.
Je ne suis pas vaccinée, je n'ai donc pas ce pass, mais j'ai un faux pass qu'on m'a refilé de quelqu'un qui a fait le vaccin. Et ça me pose vraiment des problèmes de conscience. Ça m'est arrivé deux fois de l'utiliser et je trouve ça vraiment nul parce que je voulais boycotter ce truc-là. Et l'utiliser, même si c'est un faux, ça veut dire cautionner ce système de contrôle, soi-disant temporaire. Mais avec ce prétexte de la crise sanitaire, il y a des choses qui sont mises en place qu'on n'aurait pas acceptées avant, qu'on ne doit toujours pas accepter, comme la répression face à des manifestations, les publications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur même des médias qui sont censurés, qui sont bloqués. Dès que ça va un peu dans le sens contraire aux directives gouvernementales, ça fait peur.
Ma source d'information principale, c'est mon mec. Lui, il va tout le temps s'informer sur divers sites qui sont plus des sites d'information. C'est vraiment croiser les données, quoi. Et donc, du coup, se renseigner sur le nombre de lits, le niveau d'âge, sur le pourcentage de vaccination, etc. Et donc, c'est vrai que lui a plus tendance à se fier sur des chiffres et à se dire, tiens, c'est pas normal, il y a deux mois, on nous a dit ça, et maintenant, on nous dit ça. Ou bien se dire, ok, ces chiffres-là, ça fait des mois qu'on nous les communique plus, comment ça se fait. Après, on lit de temps en temps des articles scientifiques aussi. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de regarder un petit peu des reportages Arte sur le fonctionnement de la vaccination ou des choses comme ça.
Je ne vais pas chercher de façon active des articles ou des documents ou des ressources. Par contre, j'ai identifié depuis ces 18 derniers mois trois personnes dans mon entourage. Je leur fais confiance par rapport à la rigueur que ces personnes mettent à la lecture des informations, ainsi que de rechercher la fiabilité de la source de cette information et d'analyser la rigueur du traitement de l'information.
J'avoue, je lis RTBF. Par rapport à ce qui se passe, à où on en est dans les mesures ou par rapport au nombre de cas, tout ça, de temps en temps, je lis la RTBF, voilà. Souvent, je suis au courant par le boulot aussi.
Je ne lis plus les journaux et je ne regarde plus les journaux depuis un moment, parce que quand ça m'arrive de le faire, ça m'hallucine. Je suis au courant des nouvelles décisions parce que les gens en parlent autour de moi les jours qui suivent. Quand je m'informe, je vais plutôt chercher les infos sur le site de Kairos, par exemple, média alternatif belge. Les manifestations où je ne suis pas allée, pour beaucoup, je les suivis par Internet en direct, avec des journalistes qui font ça en direct. Et ça me semble important de regarder ça comme ça, de ne pas juste regarder le résumé de 10 secondes du JT où on voit juste quelques images prises hors de contexte, parce que lors des lives qui durent parfois plusieurs heures, ils n'ont pas l'occasion de faire des coupures, de montage, etc. Donc c'est vraiment comme si on y était, je veux dire, on peut se faire sa propre opinion.
Comme un peu tout le monde, je pense au début de la crise, j'ai beaucoup suivi les médias et les médias mainstream. Ensuite, moi j'ai décroché il y a 6 mois. Parce que j'y trouvais plus mon compte, les informations que j'ai actuellement et que j'ai eues aussi, notamment sur l'évolution de la crise. Ben, je connais du personnel soignant et moi-même, je faisais partie du personnel soignant. Et sinon, à la maison, ben, c'est plutôt des discussions avec mon compagnon qui lui se renseigne quand même un peu plus que moi.
Les sites d'information alternatifs, non subventionnés, avec des gens qui réfléchissent, qui justement aussi posent des questions, parfois des questions qui fâchent, mais au moins c'est des questions. Il n'y a pas forcément de réponse en tant que telle, mais voilà, des mises en perspective.
Je me renseigne assez mal, parce que ça me déprime. J'écoute jamais les infos. Je regarde de temps en temps sur Le Monde, sur des journaux, sur Internet, mais je me renseigne assez mal et j'ai du mal à trouver ma source en fait. Je suis complètement dispersée là-dedans, je sais pas très, très, très bien quoi croire.
Tous les jours, quand la radio se met en route à 6 heures en guise de réveil, c'est les nouvelles mesures, c'est le nouveau nombre de cas, tout le temps c'est du matraquage. Donc c'est pour ça que c'est central. Ce matin, par contre, j'ai entendu entre deux choses que voilà, il y a des migrants qui s'étaient noyés en mer en voulant rejoindre la Grande-Bretagne, comme ça glissé entre la page des sports et justement le nombre de cas et les nouvelles mesures Covid pour les marchés de Noël. Tout ça, c'est systémique. On se focalise sur un point maintenant. Et moi, j'ai envie de dire, regardons bien plus loin que ça, parce que la tête dans le guidon, on voit rien.
Éreinté, tout le monde est exaspéré, plein de personnes ont des positions différentes. C'est impossible d'avoir des échanges constructifs sans réduire la position d'en face à quelques arguments incomplets.
C'est dommage de voir que sur des convictions comme celle-là, parce que c'est devenu presque comme une conviction, oui, politique ou religieuse, il y a des noyaux qui peuvent éclater, que ce soit dans la sphère amicale ou même familiale.
C'est vrai que j'ai pas forcément envie, besoin de débat tout le temps. Je pense qu'il y en a déjà assez autour de nous. Et en fait, ce qui me dérange encore plus vraiment, c'est justement les désaccords qu'on peut avoir avec des personnes proches. Donc par exemple, les personnes avec qui j'ai eu éventuellement une mini-conversation là-dessus, ce sont plutôt des personnes qui se disent... Si tout le monde faisait comme vous, c'est-à-dire ne pas se vacciner, c'est normal qu'on ne soit toujours pas quitte de cette merde. Du coup, en fait, on rejette la faute sur les non-vaccinés. Ça fait mal, en fait, de se dire ça, parce que ça veut vraiment dire qu'on nous reproche une opinion et que les gens ne sont pas capables de vivre avec. Alors qu'en fait, moi, je suis complètement capable de vivre avec des gens qui ont décidé de se vacciner, qui donnent leur CST à tout va quand ils vont dans des endroits... Parce que je comprends, c'est pas facile comme décision à prendre de se dire je pourrais plus aller au resto, je pourrais plus aller voir un concert.
J'ai l'impression que toute ce qui est lié au Covid est extrêmement lié à l'émotion parce qu'on a tous des exemples et des contre-exemples de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, on connaît des gens qui ont été malades même s'ils ont été vaccinés. On connaît des gens qui se sont remis même s'ils n'étaient pas vaccinés. Et on a tous des exemples et des contre-exemples, des gens qui sont malades, qui nous sont chers et dont on est triste, des gens qui ont été impactés négativement par la crise et qui se sentent oubliés par le gouvernement et on est triste et on empathie pour ces personnes-là. La raison majeure pour laquelle tout le monde a des émotions, c'est que tout le monde a un vécu. Tous nos vécus sont différents. Parfois, ils rentrent en contradiction les uns avec les autres. Et on n'a pas eu d'espace physique, virtuel ou temporel en tant que société pour reconnaître en fait toutes ces souffrances et en parler, avoir du recul. Et du coup, j'ai l'impression que tout ressort en termes d'émotions dès qu'on essaie de parler. Mais parce qu'on a besoin de ce temps et de cet espace, et il n'existe pas autrement que dans des interactions individuelles quand ces questions-là arrivent.
Quand dans une société, on ne peut pas avoir deux opinions différentes et en discuter, ça veut dire que la pensée n'est pas structurante, n'est pas en évolution. Après, ce n'est pas le seul sujet sur lequel je dirais que c'est comme ça. Je dirais que ça fait quand même quelques années, peut-être 2-3 ans qu'il y a de moins en moins de possibilités finalement d'avoir des opinions différentes sur des sujets. Et je crois que les réseaux sociaux, malgré tout, ont quand même vachement contribué à ça.
J'essaye de sauvegarder un peu mon mental et de parler d'autre chose quand c'est possible, même si ça ne l'est pas toujours. Et si je sens que la discussion va être un peu animée, que j'ai en face de moi des personnes qui sont vraiment persuadées d'avoir raison sur le vaccin ou le CST, ou enfin, des questions en rapport au Covid, j'évite la discussion.
Moi, je pense qu'on est tous un peu traumatisés des confinements. On aspire tous à avoir une vie sociale qui repart. Ça crée quand même des désordres psychologiques. Personne, je pense, sort indemne de ce qu'on vient de vivre. Malgré tout, on est moins souple qu'avant. Moi, je le vois chez moi. Je suis moins prête, finalement, à accueillir une autre façon de faire quand des gens viennent chez moi. Finalement, tous dans nos cavernes, là, on a peut-être consolidé des façons de penser qui nous étaient propres et que quand on sort de nos cavernes, la discussion est plus compliquée qu'avant.
Les personnes qui sont dans la décision politique, qui dirigent les différents niveaux de gouvernement de ce pays, n'ont pas l'air de suffisamment bien prendre en compte les problématiques, tous les dysfonctionnements que la crise a révélés. Et je pense que ça, c'est exaspérant, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de la souffrance collective et des souffrances individuelles que nous avons tous vécues depuis mars 2020.
Tour de passe-passe, une création sonore de Marine Ruby, mixage Giuliano Di Vito. Merci à Monsieur 13, Boldo, Laetitia, Silou, Quentin, Maria et Marie pour leur témoignage. Musique et son de Goji de Dilating Times, For the Record de Daniel Birch, Metronomy Tribute de Robin Nina, Carousel de Vita Verve, Kokabura de Rau, Free Music de Dave GF, Bumbly Bees and Bees de Stradjet, Onomatopeia de Rau. Une production d'une certaine gaieté avec le soutien du service de l'éducation permanente et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.